Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
7h39, Langue l'écho avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Deux grandes entreprises industrielles françaises passent donc aujourd'hui sous pavillon étranger. Alstom devient allemand et les chantiers de l'Atlantique deviennent italiens. Est-ce que c'est grave ?
C'est en tout cas significatif. Ce sont deux entreprises de premier plan. Le numéro un français du ferroviaire, Alstom, est l'un des premiers mondiaux de la construction navale, les chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire. Deux entreprises en bonne santé, qui ont l'une et l'autre des carnets de commandes de plusieurs années, même si les chantiers sont à peine rentables. Dans les deux cas, l'opération est vendue comme un nouvel Airbus. L'Airbus du rail, l'Airbus de la mer, du naval. Hein. Dans les deux cas, on exalte le nouveau champion européen. Dans les deux cas, la réalité, c'est qu'une entreprise française de premier plan passe sous contrôle étranger.
Ça veut dire que la nationalité d'une entreprise, ça compte même en Europe ?
Ben oui, ça compte, parce que ça détermine les choix stratégiques de l'entreprise, à commencer par la localisation de son siège, des emplois, des centres de décision. Même à l'heure de la mondialisation, il subsiste un lien entre le capital et son pays. Quand une multinationale supprime des emplois, il y a des études qui ont montré ça, bien souvent, elle le fait de façon concentrique, en commençant par la banlieue de l'Empire, les territoires les plus éloignés, et en arrivant progressivement jusqu'au centre. Bien souvent, il subsiste un lien affectif, historique, entre les dirigeants et le pays dont ils sont issus, entre les dirigeants et les gouvernants du pays. Mmh. C'est particulièrement le cas en France, où les élites politiques et économiques se connaissent très bien, depuis leur plus jeune âge, souvent parce qu'ils ont fait souvent les mêmes écoles.
Mais très concrètement, qu'est-ce qui donne sa nationalité à une entreprise, son dirigeant, la localisation du siège ?
Bah, tout ça à la fois, son histoire aussi. Alstom, c'est le TGV. C'est la modernisation de la France des Trente Glorieuses. Ce sont les pionniers de la construction de locomotives de l'entre-deux-guerres. Mais, parmi tous ces critères, s'il y en a un qui semble déterminant, c'est la nationalité du capital, de l'actionnaire majoritaire, en l'occurrence allemand chez Alstom et italien pour les chantiers. C'est ça qui fonde la nationalité de l'entreprise, me semble-t-il, parce que c'est l'actionnaire majoritaire qui a le pouvoir de décider, y compris de révoquer les dirigeants.
Donc les fusions entre égaux, ça ne marche pas.
Jamais. Il n'y a pas d'exemple réussi. Regardez le cimentier Lafarge-Holcim, présenté comme une fusion entre égaux. C'est de plus en plus une entreprise suisse. Mm-hmm. Il faut que l'une des parties l'emporte sur l'autre. Une entreprise, c'est un seul patron. Les dissensions entre nationalité et culture ont par exemple pollué Airbus pendant des années jusqu'à ce qu'on transforme la gouvernance. C'est pour ça que les fusions sont toujours délicates à réussir sur le plan humain et que 2 sur 3 échouent à cause de ces questions de pouvoir et de culture.
Alors néanmoins, le gouvernement donne des garanties sur le caractère français du nouvel ensemble Siemens-Alstom. Est-ce qu'on peut le croire ?
Écoutez, il y a 3 choses dans ces garanties. Un patron français, un siège en France et pas touche à l'emploi pendant 4 ans. 4 ans à compter du moment où la fusion sera approuvée par Bruxelles, c'est-à-dire probablement en 2018. Ça nous mène donc jusqu'en 2022. 2022. Louable effort, mais qui confirme quand même que le centre de gravité est désormais allemand et qu'on tente de compenser cela. D'autre part, l'expérience prouve que les promesses d'après-deal ne résistent pas longtemps à la réalité du business et au rapport de force qu'induit la propriété du capital.
François Langlais pour Langue l'écho, tous les jours sur RTL.